RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense et dans le cadre du Berry se raconte. Il y a bien longtemps que je n'avais pas rejoint les studios de RCF pour enregistrer. Pour être plus précis, mon dernier enregistrement date de janvier 2020, où j'avais consacré 3 émissions à Maurice Bourlon, capitaine au 19e bataillon de chasseurs, mort pour la France, le 21 août 1914, mais aussi ce cher capitaine, grand préhistorien. Les incertitudes de la situation sanitaire ne doivent cependant pas interrompre notre 7e saison 2020-2021. Et comme nous sommes attachés à la tradition, nous accueillons le président d'Agora Défense, Yves de Bonneau, initiateur de cette émission. Bonjour Yves.
Bonjour Bernard.
Alors, me permettez-vous cette interrogation banale, très banale, mais d'actualité. Et le Covid pour Agora Défense?
Eh bien, écoutez, je le craignais, mais nous ne pouvons pas y échapper. D'autant que la crise que nous connaissons actuellement et les difficultés que nous traversons correspondent parfaitement à ce à quoi Agora Défense réfléchit depuis les origines et ce à quoi toutes les personnes qui ont la défense au cœur pensent et savent. Je ne dis pas que nous connaissons les solutions, mais nous connaissons les grands éléments constitutifs de la crise et une partie des réponses à y apporter. Je ne rappellerai pas que, très étonnamment et avec une rapidité très grande, le président de la République a choisi de gérer la crise en Conseil de défense, entouré de spécialistes de ces questions qui ne sont pas que des militaires, qui sont aussi bien entendu des militaires, mais toute personne qui s'interroge sur la gestion des risques et des menaces pour notre pays.
Alors, l'année 2020 est importante pour de nombreuses commémorations. Comment Agora se prépare-t-il à rappeler le souvenir de la guerre de 1870, il y a 150 ans? Et je dois vous avouer que pour nombre de personnes, même de notre génération, ça ne veut rien dire.
Je ne vais pas revenir sur la raison de l'oubli. Donc la guerre de 70, c'est un sujet récurrent chez nous. Nous en avons parlé de nombreuses fois. J'ai toujours été très étonné de la disparition au sein des programmes de la guerre de 70, qui explique énormément de choses. D'abord, qui est le résultat d'un certain nombre d'événements historiques et qui ensuite va expliquer le siècle de fer et de feu et de sang que nous avons traversé le XXe siècle. Je suis heureux qu'elle revienne au programme de première.
Oui.
Les élèves pourront réfléchir à ce moment épouvantable. Alors, qu'on ait voulu l'éluder, peut-être, mauvais souvenir, triste souvenir, fâcheuse défaite, humiliante défaite, comme le titre un ouvrage paru récemment, mais défaite explicative. Et dans cette guerre épouvantable, un certain nombre de choses se sont passées. Nous avons localement quelques événements à raconter éventuellement, que nous avons déjà relatés. Bourges va se fortifier à toute vitesse. À cette époque-là, il n'en reste plus rien. Hein. Mais Bourges va se fortifier pour essayer de protéger les industries d'armement qui étaient arrivées là. Et ensuite, des hommes, des berrichons, vont participer au combat dans des conditions très difficiles et il en reste des traces dans la toponymie locale. Vous avez la place du commandant Martin, vous avez le boulevard de Juranville, vous avez l'espoir de Jean Baffier qu'on appelle communément l'homme taureau placé au cours. Vous avez un certain nombre de souvenirs de cette guerre qui effectivement pourraient bien ne plus rien dire à nos contemporains, alors qu'elle a marqué profondément. Alors, parmi les actions que nous aimerions mener, je le dis, et c'est un sujet difficile, il y a la tombe du commandant Martin. Je le répète, place du commandant Martin, boulevard de Juranville. Le commandant Martin est mort à la bataille de Juranville dans le cadre de la défense d'Orléans, avec à la tête pratiquement du 19e mobile, oui. Des Berrichons de tous nos cantons, quand on en regarde la constitution, des Berrichons de tous nos cantons. Le commandant Martin, la tombe du commandant Martin est aujourd'hui en très mauvais état. Elle a été affaiblie, fragilisée. Une partie en est tombée. Il reste heureusement une pierre sur laquelle est écrite « mort pour son pays », puisqu'à l'époque, l'expression « mort pour la France » n'existait pas encore. Voilà. Donc, cette tombe, nous aimerions bien qu'elle, au cimetière des Capucins, qu'elle puisse être le témoignage... un des témoignages de cette guerre de 70. Et nous espérons que le souvenir français, dont c'est une des missions, pourra faire quelque chose. Ils sont en train d'étudier la question suite au prochain numéro. Voilà, donc pour la guerre de 70, il faut effectivement y réfléchir. L'histoire nous aide à comprendre.
Je pense au directeur de l'ONAC, hein, oui. Monsieur Vigoureux, hein, oui. Que je vais inviter, parce que je crois qu'il a une connaissance très précise de ce sujet, hein, qui va nous permettre, voyez-vous, d'avoir le contexte et d'avoir des explications simples, mais que tout le monde pourra connaître. Ça, c'est important, je pense.
Oui. Mais c'est une histoire complexe. C'est la grande histoire de l'Europe, c'est la grande histoire de la relation franco-allemande. C'est la grande histoire des fautes partagées. Nous ferons venir, j'anticipe un peu, au salon du livre d'histoire, Benoît Chenu, qui avait écrit sur son ancêtre, le général de Castelnau, et qui actuellement travaille sur des sources assez inédites du service historique de la défense, sur la question des tentatives de paix et des tentatives ratées de paix pendant les années 15-16. Le grand massacre, la grande hécatombe a duré jusqu'en 18, mais des hommes réfléchissaient à ces questions-là. La question franco-allemande, le passif de la guerre de 70.
L'organisation de vos manifestations, ancrée maintenant dans notre département, bien implantée, pour 2021, à savoir le Salon du Livre d'Histoire, le Salon de l'Antiquité Militaire. Alors, quelques dates, rappelez un petit peu tout cet historique. Alors, Yves, vous êtes reconnu.
Eh bien, écoutez, j'accepte de l'entendre, mais tout ça doit se prouver quotidiennement. Et nous avons effectivement, pour pas dire vrai, d'énormes difficultés avec le Covid pour pratiquer nos activités. Nous arrivons à avoir des réunions de travail régulières, mais l'organisation des manifestations est très complexe. La prochaine à laquelle nous devons participer, la fête des associations, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir participer. Si la fête des associations aura lieu, je pense qu'elle aura lieu. Mais dans quelles conditions, je ne sais pas. Le Salon du Livre d'Histoire, lui, est en cours de préparation. L'équipe travaille. Voilà, ce salon est planifié pour le 30 janvier, les 30 et 31 janvier.
Dans la salle du Duc Jean.
Dans la salle du Duc Jean. Aujourd'hui, nous avons tous les accords avec la réserve qui est permanente actuellement. Est-ce que les conditions y seront ? Nous vivons, comme tout le monde, au jour le jour, en attendant la suite des événements. Et avec un peu d'inquiétude, et évidemment, puisqu'il y a une faible lisibilité. Le salon de l'Antiquité militaire, lui, devrait avoir lieu le 30 mai, donc nous l'avons un peu décalé, mais tous les calendriers de toutes les associations sont bouleversés. Vous savez que nous avons une chorale depuis quelque temps. Cette chorale réunit plus d'une trentaine de choristes, tout à fait passionnés. C'est un lieu sympathique où on chante effectivement un certain nombre de chants de tradition, de chants patriotiques, etc. Nous devions intervenir lors d'une manifestation qui a lieu le 18 septembre. Oui. Je ne sais pas comment faire répéter notre chorale. Voilà. il peut y avoir des personnes à risque, des personnes sensibles, et dans cette période, il faut respecter les inquiétudes des uns et des autres, et il faut respecter aussi les règles sanitaires qui nous sont imposées. Donc, c'est effectivement très compliqué donc de pouvoir travailler sur ces questions, sur un certain nombre d'auditoires. Nous intervenions dans les collèges aussi. Comment est-ce que cette chose-là va pouvoir se faire cette année? On disait le bonheur qui était le nôtre de voir que la réflexion sur la guerre de 70 entrait de nouveau dans les programmes de première, mais nous savons que les questions de d'histoire et de géographie, donc je vais le dire autrement, de philosophie morale et de géopolitique sont essentielles. Je l'ai dit à ce micro déjà bien des fois. Si on veut parler de défense, il faut évoquer les questions de philosophie morale et de géopolitique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très étonnante de ce point de vue. L'activité législative, nous l'avons vu, s'est concentrée sur les tourments existentiels et ce qu'on appelle le sociétal, plus difficilement sur les questions de fond qui animent la défense, sur les mesures qui s'imposent et sur les décisions qui devraient être prises. Mais à quel niveau? Au niveau français, au niveau européen, nous voyons cette valse permanente. Donc il faut un peu éclairer, donner quelques clés de lecture et de compréhension sur ces questions-là.
Yves, nous avons donc fait allusion à de nombreuses commémorations. Il y en a une qui vous tient personnellement très à cœur, c'est la commémoration en l'honneur d'Hubert de Lagarde. Alors, qui est Hubert de Lagarde?
Alors, d'abord, nous avons déjà fait un certain nombre de choses autour d'Hubert de Lagarde. Nous l'avons fait connaître. Il y a une rue à Bourges maintenant qui s'appelle Hubert de Lagarde. Et il va y avoir le 18 septembre, à Marmagne, une cérémonie d'inauguration d'une plaque sur les lieux de sa naissance. Et j'en remercie la municipalité de Marmagne très sincèrement. Ce sera l'occasion d'en parler. Nous sommes en train de préparer une exposition pour présenter cet homme. Hubert de Lagarde, c'est un officier français, un homme engagé, un intellectuel, puisqu'il a écrit un certain nombre de livres, il a concouru au Goncourt, il a contribué à créer le prix Interallié, il a une plaque au Panthéon au titre des écrivains combattants, etc. Et c'est un homme extrêmement intéressant. Donc l'officier engagé, l'homme de conviction également, et un homme sans œillères et sans restrictions. Il était d'Action française, donc monarchiste. Il s'est engagé contre Mussolini. Il a couvert pour le renseignement français la guerre d'Espagne. Il a vu monter le nazisme et il a pris des positions extrêmement claires, échappant ainsi à ce qu'on voudrait typologiser de façon très caricaturale à propos de la Deuxième Guerre mondiale, période extraordinairement complexe. C'était un homme qui avait des conceptions en matière d'éthique et en particulier une conception de la liberté sans restriction, c'est-à-dire son réseau, le réseau qu'il a créé dans la résistance s'appelait Éleuthère, ce qui signifie liberté. Et il a montré jusqu'à la mort, puisqu'il est mort à Dora, en camp de concentration, il a montré jusqu'où on pouvait s'engager pour la liberté.
Merci. Voilà.